France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Neige Sino. Alors j'ai adoré la Realidad, j'ai aimé cette quête en fait, cette découverte que vous faites du Mexique, de la langue, des gens, cette quête sans fin de ce village, la Realidad, dont on se demande si vous allez finir par le trouver un jour.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Peut-être qu'on ne comprendra rien aujourd'hui dans votre book club, mais rien ne vaut un bon bain de réalité. Le nouveau livre de Neige Sino, qui a précédé dans l'écriture son inoubliable livre Triste Tigre, est un chemin vers l'écriture, entre autres. Un chemin qui n'est pas celui qu'on croit, plus long, plus tortueux et moins clair que ce qu'on souhaiterait. Mais en chemin, il y a la métamorphose. C'est une histoire de voyage, d'amitié, d'amour, d'apprentissage, de transformation, de lutte, traduit de l'espagnol par l'autrice elle-même, une traversée vers l'autre rive, vers un autre monde peut-être, où les enfants nous attendent. La Realidad paraît aux éditions POL et Neige Sino est notre invitée. Vers 15h50, comme chaque lundi ces jours-ci, on retrouve Clémentine Mélois pour ses lectures d'actu. Elle profite de l'anniversaire de Boris Vian, il aurait eu 105 ans aujourd'hui, pour parler de poésie comme d'un radeau de survie. Et en fin d'émission, on va chercher la musique dans le livre. On est ensemble pour une heure sur le chemin. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Et bonjour Neige Sino.
Bonjour.
La Realidad paraît ces jours-ci aux éditions POL. Soyez la bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous y revoir. Je dis revoir parce qu'on vous avait reçu ici pour Triste Tigre. Donc on avait fait ce fameux questionnaire lecture qui vaut comme un portrait de nos invités en tant qu'ils sont, elles sont des lectrices, des lecteurs. Je renvoie nos auditeurs à vous écouter une nouvelle fois et je fais une sorte de mini résumé de ce que vous nous aviez dit. Vous vous souvenez à l'époque des livres jeunesse « Les deux coqs d'or ». Récompense quand on avait bien travaillé à l'école.
Oui.
Vous vous souvenez en particulier avoir reçu Blanche Neige et Rouge Rose. Et vous notiez que c'était étonnant tout de même parce que vous vous appelez Neige et que votre sœur s'appelle Rose et que d'un seul coup, la vie et la lecture se liaient. Cela pour longtemps. Vous vous souveniez aussi de la puissance du déchiffrement. Ça veut rien dire et d'un seul coup, ça devient mille choses. Et ça, c'était très fort. Vous vous souveniez d'un essai écrit par vous sur la lecture comme d'une façon de vivre, que vivre en lecture, c'était quelque chose d'important. Et vous évoquiez notamment le legs humaniste dont parle Bolaño. On est réunis dans la lecture par notre quête de sens. Vous aviez dit pas mal de trucs, hein?
Oui.
Vous deviez lire Les Métamorphoses d'Ovide, traduit par Marie Cosnet, et les textes posthumes de Bolaño, l'avez-vous fait?
Toujours pas lu, j'ai pas eu le temps.
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Et vous aviez sur votre table de chevet La Foudre de Pierrick Bailly à l'époque et Après la Foudre de Claire Fercac. Comment ça va, vous, en tant que lectrice? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis un an et demi?
Toujours. J'ai lu beaucoup plus de littérature française et francophone qu'avant, parce que je suis comme un peu de retour dans ma langue. Et en même temps, la lecture la plus importante que j'ai faite cette année, je crois que c'est quand même La Llamada de Leila Guerriero, qui sera sûrement traduit l'année prochaine, qui n'est pas encore traduit, et qui est une déflagration dans le monde hispanophone.
C'est quoi ?
C'est un très grand livre. C'est donc Leila Guerriero, elle est connue, je pense, quand même un peu ici en France pour un livre qui s'appelle Les Suicidés du bout du monde. Elle est journaliste de formation, elle fait des livres de non-fiction qui sont en même temps des reportages très longs, mais on voit pas très bien la différence entre un reportage très long et un texte de littérature. C'est quand même les mêmes outils que pour composer un roman. Et là, c'est un livre très important qu'elle a fait où elle interroge une femme qui a été enlevée par la dictature argentine dans les années 70, qui était torturée et ensuite libérée. Et quand elle a été libérée, elle s'est retrouvée à chercher refuge chez ses anciens compagnons de lutte, qui l'ont considérée comme suspecte parce qu'elle avait survécu. Et donc, il y a, évidemment, elle a été torturée aussi sexuellement, comme beaucoup de femmes qui ont été enlevées. Donc, il y a plein de questions. Il y a la question aussi de, est-ce qu'on est légitime à vouloir connaître la vie de quelqu'un d'autre? Parce que c'est au-delà.
L'entretien.
Oui, ouais. Au-delà de l'histoire, c'est aussi, elle devient prédatrice de l'histoire de cette femme. Et c'est une série d'entretiens. On a fait, je crois, 90 heures. Avec l'accord de cette femme. Mais malgré tout, c'est quand même un grand questionnement. est-ce qu'on a le droit? Et quand on se donne ce droit, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, toutes ces questions-là sont passionnantes pour moi. Et en plus de ça, c'est vraiment un grand livre.
Qu'est-ce qu'il y a alors du coup sur votre table de chevet? Est-ce que vous avez toujours les Métamorphoses d'Ovide à lire et les textes posthumes de Bolaño?
Les choses à lire, elles sont dans un coin sur une étagère, mais en plus de ça, j'ai laissé tout ça au Mexique et là, je suis en France. Donc non, là, sur la table de chevet, j'ai des livres qu'on m'a conseillés et offerts, notamment un livre de, je sais pas comment ça se prononce, Stepanov.
Sur l'attachement.
Voilà.
C'est un gros livre d'anthropologie.
C'est un gros livre d'anthropologie qui m'attire beaucoup. L'ami qui me l'a offert m'a dit c'est absolument extraordinaire.
C'est
sur mon
bureau aussi. Donc on est compagnonne de livres. Voilà. Je le regarde depuis septembre.
Et qu'est-ce que j'ai d'autre sur la table de chevet? Je viens de commencer le dernier livre de Claro. Les ronds dans l'eau. Je me rappelle même plus du titre.
Moi non plus, je peux pas vous aider. Je me souviens qu'il avait consacré un texte à l'échec récemment. Il était venu en parler au book club, mais c'est pas
et
ça.
Et là, il parlera sûrement d'échec. Je suis au début, mais c'est un livre surtout sur, je crois, parce que là, je suis au tout début sur l'écriture et sur. J'ai l'impression que ça parle du rapport à la mort. Enfin, de aussi l'écriture comme force de vie et en même temps comme liée avec quelque chose de. J'ai l'impression, au début en tout cas, ça parle beaucoup de la mort. Donc je pense que ça va se connecter au bout d'un moment.
Vous dites que vous êtes comme revenue dans votre langue, Nejcino, ça veut dire quoi et qu'est-ce que ça fait?
C'est assez curieux parce que depuis la publication de Triste Tigre, je me suis retrouvée par hasard à être en France, à parler beaucoup de ce texte dans un contexte de littérature française. Et j'ai trouvé un éditeur français alors que je m'imaginais pas. Donc je me suis mis à lire de façon un peu compulsive déjà des textes publiés par la maison d'édition qui me publie aujourd'hui pour me faire une idée de mes compagnons. Et puis aussi de me remettre à lire beaucoup de littérature française. J'ai jamais arrêté, mais ça s'est fait comme ça. On est toujours envoyé d'un livre à l'autre. Et... c'est très enthousiasmant, ces voyages-là dans la langue.
Du reste, vous en parlez beaucoup, on va y venir dans la réalité. Et d'ailleurs, c'est aussi un voyage dans la langue parce que vous vous auto-traduisez. Mais avant d'évoquer ça, Nejcino, vous parlez de ce que c'est que pour vous, progressivement, aller vers l'espagnol, l'acquérir, de ce que ça vous fait aussi de, non pas le maîtriser, mais d'affiner votre possibilité de communication dans cette langue. Mais aussi comme ça n'est pas suffisant pour faire de vous complètement aux yeux de toutes et tous une Mexicaine, malgré un passeport. Est-ce qu'il en est pour une petite fille née là-bas, qui, elle, maîtrise totalement cette langue? Mais n'a pas tout à fait la gueule de l'emploi, comme on dit. C'est assez beau comment cette question travaille aussi votre texte.
Oui,
là, pas
sûr.
Du côté français, mais du côté vraiment de la pratique de l'espagnol.
C'est pas que ça m'obsède, la langue, c'est juste que c'est mon rapport au monde. Et donc, je lis... Sûrement, d'autres personnes diraient les mêmes choses sur les difficultés de se sentir à sa place ou de trouver un endroit où on sent que notre identité est confirmée par l'extérieur et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi... c'est d'une grande clarté quand c'est des questions de langue, quand c'est des questions même de linguistique. Je cite dans le livre une linguiste qui a une double culture et qui a deux langues. Et elle parle d'une langue que je ne connais pas, mais en même temps, je me retrouve complètement dans ce qu'elle dit. Donc, c'est vrai que ces manifestations-là d'une insécurité dans la langue, on avait déjà parlé aussi que... J'ai une grande joie à reconnecter avec le français, à parler français et tout ça, mais je sais aussi que d'être passé de l'autre côté, d'avoir mis tellement d'efforts à apprendre une langue étrangère, ça me rend maladroite dans ma propre langue. Ça fait que j'emploie des expressions qui sont un peu datées, qui datent de quand je parlais que le français. Tout ça, c'est rigolo. C'est un peu triste aussi de temps en temps parce que je me rends compte que je vieillis. Et enfin bon, ma vie, elle se dédouble tout le temps dans des questions de langue.
Peut-être pour dire le sous-texte qui est que vous vous installez vraiment au Mexique en 2006, donc on peut dire que ce retour vers la France est presque 20 ans après Nechino, donc c'est aussi toute cette période-là. Pour continuer un tout petit peu sur ce sillon, vous écrivez aussi que vous avez un dialogue sur la question des doubles cultures et vous allez à contre-courant de l'idée selon laquelle très belle et très importante et qu'il faut défendre, que ce serait une richesse. Et vous montrez combien pas que, en fait, et que c'est aussi une violence, et que c'est aussi la condition d'un exil intérieur toujours reformulé, toujours répété, et c'est inédit aussi de le lire de cette manière-là.
Oui, c'est pas une posture idéologique, c'est une expérience que j'ai eue. J'attendais beaucoup, et j'avais l'impression d'accumuler de la richesse, d'accumuler du savoir, et de passer de simple à double. De passer de « je n'ai qu'une culture » à « je deviens un peu multiculturel ». Et oui, on a ça, mais en vérité, on est, c'est l'existence humaine, on est toujours fragile. Et ce n'est pas parce qu'on croit qu'on a de plus d'armes et qu'on a plus de force et qu'on a plus de savoir qu'on perd sa fragilité, on en gagne d'autres en fait. Quand on arrive... Ça m'a ouvert un monde fabuleux d'apprendre une autre langue, de lire une littérature dans une langue qui n'était pas ma langue maternelle, ma langue de départ. Ça m'ouvre un monde. Mais en même temps, ça me révèle, ça me fait comprendre aussi tout ce que je ne sais pas, toute cette ignorance. C'est aussi quelque chose de déstabilisant. Et qui, pour moi, est vécu sur le mode de la joie principalement. Mais j'ai l'impression que ça m'a donné aussi plus d'empathie et plus de possibilités de comprendre les gens qui sont déplacés dans des questions linguistiques. Ou qui sont obligés. Par exemple, au Mexique, beaucoup de poètes, beaucoup de gens qui écrivent. Je dis poète parce qu'il y a beaucoup de poésie en langue indigène, en langue indienne. Beaucoup de gens qui écrivent dans leur langue maternelle, c'est... souvent sous forme de poésie, mais aussi sous forme de prose, qui sont obligés, pour faire connaître leur texte, de s'auto-traduire. Et parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a une langue majoritaire qui domine tout, qui écrase tout, qui est l'espagnol. Et donc, de naviguer entre les langues, ça me permet d'avoir aussi une petite compréhension, une porte qui s'ouvre, en tout cas à l'intérieur de moi, pour avoir je m'identifie avec ces problématiques-là.
Oui, et c'est assez beau parce que d'autant plus que vous le faites dans ce texte-là en prenant conscience toujours, c'est toujours double là aussi, de l'image que vous avez, dont on ne peut pas se défaire, de l'apparence qu'on a, et c'est quelque chose qui est pensé en même temps, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez être très proche de toutes ces questions de fissures, de difficultés, d'exil, de rapport entre les langues, et en même temps, parfois dans les rues au Mexique, vous n'êtes que une femme plutôt blonde, plutôt blanche, aux yeux clairs.
Oui, mais c'est la réalité, en fait. C'est aussi toujours chez moi cette dichotomie entre le monde intérieur, parce que je suis une grande lectrice, je fais que lire. Et donc, par rapport à cet accès à la langue, j'ai l'impression tout d'un coup qu'il y a une fluidité en lisant des livres et en ayant accès à une culture et en me transformant intérieurement et en me métamorphosant. Et puis tout d'un coup, je suis confrontée au monde concret où je reste aux yeux des autres. Avant tout, une Française blanche. Et c'est des surprises à chaque fois, parce que quand on lit, quand on vit beaucoup à l'intérieur de sa tête, on se projette dans des choses, et puis le réel, il y a plusieurs réels, hein, mais on est ramené. En tout cas, moi, en vivant au Mexique, j'ai été souvent ramenée à des choses qui sont moins. Qui sont plus sur la terre, qui sont plus terre à terre et d'autres réalités qui correspondent pas à ma réalité intérieure.
Oui, j'allais dire aussi moins fine, moins complexe. C'est-à-dire c'est non, mais c'est vrai quand même. C'est qu'à l'intérieur de vous, on va dire qu'il y a une possibilité d'approcher des expériences de l'altérité dont il est beaucoup question dans la réalité. C'est comment on fait pour aller jusqu'à l'autre, y compris l'autre en soi. Et puis parfois, bah voilà, en effet, le regard de l'autre, le monde tel qu'il est, la manière dont le monde est divisé et divise fait que on croit que c'est plus possible. Alors que ça l'est. On va parler de votre livre La Realidad juste après cette chanson de Antonio Carlos Jobim au départ, mais qui est traduite en français et interprétée ici par Pauline Croze. Dans Les Eaux de Mars, c'est ce tube de 1973, il est question d'un chemin. Et dans votre livre, il y a 48 occurrences de ce mot-là, chemin, Nejcino. Et vous y citez un très beau poème de Machado qui s'appelle No hay camino, donc moi je suis incapable de le dire en espagnol, mais je le lis dans votre traduction. Toi qui marches, tes traces sont le seul chemin. Toi qui marches, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. En marchant, on fait le chemin. Et lorsqu'on se retourne, on voit le sentier qu'on empruntera plus jamais. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, si ce n'est celui que laisse le sillage sur la mer.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent, au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend. C'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clos, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars. La promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars. Dans ton cœur tout au fond.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
Ça commence et ça finit par une histoire de livre aujourd'hui dans votre Book Club. Au début, ce sont deux gros volumes de théories marxistes que deux amis se sont mis en tête de faire parvenir au sous-commandant Marcos, figure mystérieuse du soulèvement zapatiste au Mexique. Et à la fin, après bien des kilomètres parcourus, de choses vues, senties, rêvées, entendues, approchées, découvertes, des années passées, des êtres aimés, des êtres perdus, des luttes aperçues, c'est un autre livre qui vient, un que la narratrice ne veut pas écrire mais qui s'impose à elle par le bourdonnement de mots pas encore prononcés. La Realidad, c'est le nom d'un village situé dans les montagnes du Chiapas, au Mexique, que votre narratrice ne rejoint jamais, Nejcino, mais c'est le chemin qui compte. Le chemin qui se fait en marchant, celui qui fait le tour du réel, des réels, et nous permet non pas de l'atteindre, mais de finir par en dire et en comprendre quelques petites choses. La Realidad, c'est aussi le titre de ce si beau nouveau livre, Nejcino, traduit par vous depuis l'espagnol et publié aux éditions POL. Alors je dis que c'est un chemin, mais je dis aussi que ce mot-là, vous le prononcez, vous l'écrivez 48 fois.
c'est vraiment
ouais,
beaucoup.
J'adore. J'adore. J'ai fait la recherche. Évidemment, je ne l'aurais pas relevé sinon. Et c'est plusieurs voyages. Il y a un premier voyage. Est-ce que c'est... Peut-être on peut commencer par là et dire ce que c'est que ce premier voyage, Nejcino, pour votre narratrice?
Oui. Simplement peut-être dire que, mais bon, ça sera une évidence pour les lecteurs et les lectrices qui le liront. Ce mot « chemin », évidemment, il est très polysémique et il y a plusieurs niveaux de lecture. Tout comme cette première anecdote que je raconte. Mon idée, en fait, au départ, c'était, j'aurais voulu me tenir à ne faire que raconter une anecdote, que raconter deux copines qui sont en sac à dos et qui ont ce voyage un peu rocambolesque pour aller dans les communautés zapatistes, qui ont envie de rencontrer le sous-commandant Marcos et qui n'arrivent pas à atteindre ce village qui s'appelle La Réalité. Et j'aurais voulu ne pas faire ce commentaire sur le double sens de ce voyage, j'aurais trouvé ça génial, mais je suis incapable. J'ai besoin aussi, une fois que j'ai lancé ça, et pourquoi j'ai lancé ça, c'est parce que depuis le début, en fait, j'ai envie de lancer ce double sens comme ces deux niveaux d'histoire. Donc je tisse une histoire qui est en forme de récit de voyage raté, et en même temps un commentaire qui est sur le chemin intérieur, chemin de l'existence, qui nous conduit d'un endroit à un autre, qu'est-ce qu'on peut chercher, c'est quoi le désir de changer le monde, le désir de se changer soi-même, enfin voilà, il y a toujours ce double récit.
Absolument. Et pourquoi vous auriez aimé ne pas le faire ?
Parce que j'aime beaucoup construire, avoir une confiance absolue dans la lectrice, dans le lecteur, et savoir qu'on se construit toujours que le livre est construit par le lecteur. Et donc si moi je construis un petit livre avec des perches tendues, j'aimerais être capable de donner la confiance absolue que la lectrice va aller aussi. En même temps, elle va dans le sens, lit l'histoire que je raconte, et elle va aussi ailleurs. Parce que ces 48 chemins, elle, bien sûr qu'elle va le voir, la lectrice, que bien sûr que vous l'avez vu. Et j'aime aussi faire l'analyse et ensuite accepter le fait que j'ai ce besoin d'être un peu spéculatif et de mettre à plat tout ça. Et c'est aussi cette forme hybride qui donne la singularité à ce livre. Et donc, je suis contente de ne pas avoir réussi ce qui était mon projet de départ.
Ben, c'est ça, parce qu'entre-temps, vous faites plein de trucs.
Entre-temps, je fais autre chose.
Ben ouais.
Mais oui.
Entre-temps, vous faites plein de trucs, Nechino. C'est-à-dire que, au lieu de ne raconter que cette anecdote qui, en effet, est superbe et c'est un cadeau parfait, cadeau du réel, voilà, le nom de ce village, la réalité. Mais en même temps, eh bien, vous nous parlez d'Artaud, vous nous parlez de qu'est-ce que c'est dans la vie de tourner autour du réel et peut-être de ne jamais atteindre le réel, mais pendant qu'on tourne, bah, on essaye de comprendre, on essaye de parler. C'est aussi un chemin qui va vers la possibilité de dire. Vous nous faites hyper confiance, mais est-ce qu'on aurait été assez fin pour comprendre tout ça? C'est pas sûr, Nechino. Du coup, vous nous aidez. Ce que j'avais déjà dit pour Triste Tyrique, c'est marrant, j'avais déjà senti que vous vous aidiez. Ouais.
Bah, j'aide.
Tout en nous faisant confiance.
C'est vrai que j'aime, je crois, comme je suis en train de parler des livres, j'auto-analyse ce que j'essaye de faire, parce que on sait pas toujours ce qu'on essaye de faire, mais je crois que puisque je me projette en tant que lectrice, et que ce désir de comprendre la vie, la réalité, pour moi, c'est un désir très joyeux. Qui pourtant, je suis pas naïve, je suis pas. C'est pas parce que j'ai une joie à pratiquer cette herméneutique, à me rendre compte que j'ai le droit d'essayer de comprendre ce qui m'arrive et que vouloir donner un sens à ma vie, c'est quelque chose qui lui donne un sens, lui donne une. Comment dire, vouloir donner un sens au niveau philosophique, au niveau linguistique, ça justifie le fait de continuer à vivre. Tout ça se retrouve dans mon écriture, ça se retrouve dans le fait que je trouve joyeux, je trouve riche de donner un texte que ma lectrice, que mon lecteur va essayer de comprendre. Parce que moi j'ai une joie, un bonheur, et j'aime être dans ce défi aussi d'essayer de comprendre quelque chose qui ne se donne pas tout fait. Donc je crois que c'est ça, je projette dans mon écriture ce que j'aime faire quand je lis. J'aime bien, mais pourtant je suis pas tellement attirée par le roman policier. Je ne cherche pas à résoudre, j'ai pas besoin de solution. J'ai besoin, je crois, de me permettre et de permettre à l'autre de trouver des petits fils pour se frayer une brèche pour arriver à la complexité. En tout cas, ça semble très très ambitieux hein, comme projet dit comme ça abstraitement, mais ça peut être aussi très très simple. Parfois, c'est des tout petits chemins, mais des portes qui s'ouvrent vers une tentative de comprendre ou la sensation qu'il y a des dévoilements. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Il y a plusieurs personnes avec qui vous êtes en dialogue, Neige Sino, en tant qu'autrice ou votre narratrice, notamment JMG Le Clésio. On va écouter une archive. En 2008, il est au micro de Jean-Louis Hézine. À voix nue, il parle de son rapport au Mexique et de son rapport à Antonin Artaud.
On ne peut pas ne pas s'identifier à Artaud quand on vient d'Europe et qu'on va au Mexique, parce que, du moins si on y cherche quelque chose, parce que ce qu'on cherche, c'est le contraire de ce qu'on a trouvé en Europe, c'est-à-dire quelque chose de plus brûlant, de plus fort. Ce que j'entrevoyais dans la civilisation aztèque, c'était un monde beaucoup plus fort et beaucoup plus passionné que le monde de la Renaissance européenne. Un monde qui n'était pas fondé sur la raison, qui n'était pas fondé sur les grandes idées humanistes sans cesse contredites, mais sur d'autres choses, qui étaient fondées sur justement cette danse, cet élan vers la magie, sur le surnaturel, c'est-à-dire sur une perception différente et une perception plus intuitive du monde. Et c'est ce qu'Artaud va chercher au Mexique. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait trouvé, parce que le Mexique ne donne pas des solutions comme ça très facilement. Mais c'est certainement cela que tout le monde, après Artaud, a pu rechercher au Mexique. C'est certainement cela qui fait qu'on peut s'identifier à Artaud.
Vous souriez quand il dit, Le Clésio, le Mexique ne donne pas des solutions assez facilement. Neige Sino, qu'est-ce qui, dans ce texte-là, est en dialogue avec Artaud et avec Le Clésio, et éventuellement avec Le Clésio qui a eu Artaud?
J'essaie de comprendre ce qu'il y avait dans ma tête avant la réalité. J'essaie de comprendre non seulement des préjugés, donc des choses un peu négatives, des images fausses, mais aussi c'est les lectures qu'on a, les fictions, les utopies, les idées, et même les préjugés et les lieux communs. C'est quelque chose qui nourrit un désir, qui nourrit une envie d'aller quelque part. Donc j'essaie, évidemment j'ai un jugement, je trouve ça négatif d'avoir des préjugés, d'exotiser les autres et tout, mais j'essaie d'explorer cette construction mentale que je m'étais faite d'un lieu avant d'y arriver, et de confronter ça, comme on disait au début, au concret, au réel. Et je suis arrivée au Mexique en ayant lu Artaud, Le Clésio et d'autres livres, hein, Bolaño, Juan Rulfo, Octavio Paz. Donc j'avais plein de choses qui étaient dans ma tête, et je parle surtout dans la réalité d'Artaud et Le Clésio parce que je les identifie comme mes prédécesseurs, entre guillemets, c'est-à-dire des Français nourris d'une certaine culture humaniste, comme dit Le Clésio, ou en tout cas une certaine rationalité, et qui remettent en question, qui essayent d'analyser, en tout cas de voir les limites de cette rationalité, les limites de cette civilisation. Et c'est fabuleux d'entrer dans un pays de la main de ces gens-là. Et en même temps, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'on connaît quand même l'histoire d'Artaud. Il s'est complètement... s'est brûlé dans cette quête de la magie.
Oui, puis il y a aussi l'idée, tout le développement que vous faites, Neige Sino, autour d'Artaud, à partir du moment où il apparaît, voilà, on quitte un tout petit peu ces deux jeunes femmes qui étaient en voyage, on quitte même cette narratrice qui veut revenir au Mexique, va y revenir, pour aller dans Artaud, avec une question aussi, c'est a-t-il fait ce voyage? L'a-t-il fait vraiment? Qu'est-ce qui compte le plus? D'avoir écrit un voyage qu'il a fait, d'avoir écrit un voyage qu'il n'aurait pas fait, de n'avoir rien fait de tout ça? Et ça vous fait aussi réfléchir pendant ce chemin-là, Neige Sino, à qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce qu'est le rapport entre avoir vécu des choses et les écrire. Bon, moi je vous ai lu aussi, et j'ai lu ce livre-là après avoir lu Tristotique, donc même si vous faites de très beaux et intéressants passages sur la cochonnerie de la lecture biographique, etc., ça met ça aussi en tension. Nous aussi on vous lit après avoir lu ce que vous avez fait avec Tristotique, et c'est vertigineux de se rendre compte que c'est c'est un chemin progressivement vers ce livre-là, on va y venir. Mais...
Oui, mais je pense que quand on vit en littérature, on se promène avec des questionnements qui reviennent sans cesse et auxquels on apporte toujours des réponses différentes. Donc la question de... Cette question de la cochonnerie de la littérature, cette question...
Du rapport biographique, il dit. Ouais, la lecture biographique.
Oui, c'est pas seulement biographique. C'est l'idée que si on veut vraiment s'attaquer à ce qui est important, on peut pas chercher en même temps à faire quelque chose de joli qui divertit le public. Il faut en tout cas, dans la vision d'Artaud, il faut aller au-delà de juste faire de la littérature. Il veut aller au-delà de la littérature. Il veut jeter la littérature à la poubelle pour se retrouver dans une relation sauvage avec la vie. C'est une interprétation, hein, c'est des interprétations que j'ai moi, mais pour libérer le langage et se servir vraiment de la langue comme d'un outil pour arriver dans la profondeur de nous-mêmes et pas simplement faire des livres qui nous rendent malins en société. Hein, il critique dans ce même texte où il parle de la cochonnerie de la littérature, les gens qui ont dans leur tête un classement des courants de pensée. Il pense évidemment au surréalisme, etc. Et parce que... il s'en fout, lui, d'entrer dans l'histoire de la littérature. Il veut quelque chose de bien plus grand que ça. Mais c'est quoi exactement qu'il veut ? C'est quoi qu'on veut dans la vie, dans une vie ? Et je crois que c'est une référence pour beaucoup de gens qui écrivent de se mettre, se confronter à cet interlocuteur intérieur qui peut être Artaud pour moi, mais qui peut être quelqu'un d'autre pour un autre auteur. Quelqu'un qui a une ambition absolue, qui nous pousse toujours plus loin, qui, dès qu'on fait du joli... Cette voix qui est à l'intérieur de nous, qui nous dit « mais c'est pas ça que tu cherches, il faut aller plus loin ». Et donc Artaud, c'est un interlocuteur qui fait ça pour moi.
Oui, et puis il y a deux choses quand vous dites la recherche de l'absolu chez Artaud, c'est que ça fait aussi signe vers l'autre recherche politique d'invention d'un monde, du mouvement que veulent rejoindre à la fois ses deux amis puis la narratrice ensuite, et qui veut apprendre de ce mouvement-là, le mouvement zapatiste, qu'est-ce qui s'invente là, quelle est la forme des luttes, comment est-ce qu'on peut partager la forme des luttes. Il y a vraiment quelque chose de la recherche, c'est très différent, mais dans les deux cas, que ce soit Artaud en littérature ou que ce soit les mouvements politiques, politique vers laquelle va votre narratrice, ça aspire à un autre monde, Neige Sino. C'est quand même un mouvement parallèle pour les deux.
Oui, mais c'est un livre sur la jeunesse. Hein. Donc, quand je raconte au début la jeune fille que je suis, je ne cite pas beaucoup Bolaño, mais je cite quand même Bolaño. Parce que c'est
aussi... En exergue, quand même.
Voilà,
vous montez sur la moto avec lui.
Voilà, je monte sur une moto. En plus, un poème qui parle d'une moto, mais en fait, c'est une moto qui ressemble à un âne. Et c'est un poème qui s'appelle L'âne, qui revient aussi beaucoup dans mon texte. Enfin, donc, j'ai voulu mettre beaucoup de références à des récits de formation sur l'amitié, sur la jeunesse, sur les désirs de jeunesse, sur qu'est-ce que ça veut dire devenir un adulte, qu'est-ce qu'on fait avec... tout le monde l'a pas, mais moi j'ai eu en moi ce très très grand désir de révolutionner non seulement ma vie, mais me retrouver à un endroit où je changeais quelque chose dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on grandit, quand on devient parent, et quand le monde se cristallise autour de nous? Il y a tout ce questionnement-là. Donc la découverte du sapatisme, pour moi, de cette lutte politique très concrète, elle répond, comme ça arrive souvent dans un chemin, mon chemin se croise d'autres chemins qui m'emmènent quelque part où j'ai besoin d'aller. Je raconte un peu ça. Mais c'est pour ça que je fais venir Artaud, c'est parce que ça ne se produit pas selon un calcul. C'est pas j'ai besoin de ça, donc je vais là. C'est j'arrive complètement d'ailleurs, j'arrive d'Antonin Artaud, et le réel, la vie, me conduit à me trimballer Artaud dans mon sac à dos, mais pour aller complètement ailleurs que là où je pensais aller au départ.
Vous écrivez des très belles pages, Neige Sino, sur l'importance de n'y rien comprendre, que c'est beau, que c'est important, que c'est fondateur, même si vous écrivez aussi de très belles pages sur l'écriture comme désir de compréhension. Se lancer dans l'écriture, vous dites, participe d'une énergie d'éclaircissement, de dévoilement, même si vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui, au Mexique, est parfait pour vivre l'incompréhension pour vous ou pour ces deux jeunes femmes ou pour la narratrice, enfin, qu'est-ce qui est presque le bain parfait?
Je ne sais pas si c'est toujours positif, l'incompréhension, hein, parce qu'il y a quand même aussi, je pense que j'en parle, c'est double. J'en parle aussi dans le livre, qu'il y a une incompréhension un peu coupable. Il y a une ignorance un peu coupable de celui qui a un privilège et qui marche sur les pieds de l'autre, qui ne voit pas le privilège de ne pas voir. Il y a dans la naïveté de cette jeune femme quelque chose que je remets en question et que je critique beaucoup en essayant de construire un autre regard. Il y a quand même ça aussi chez moi. Mais tous les lieux qui sont très étrangers à nous sont des contextes parfaits pour n'y rien comprendre et pour chercher à faire autrement, chercher à déconstruire en nous cet aveuglement. Et à développer de l'empathie, à développer notre humanité, on va dire.
Parce que c'est une phrase que prononce une femme qui s'appelle Barbara, qui dit « vous n'allez rien y comprendre, vous ne comprendrez rien ». Et vous parliez tout à l'heure de cette moto qui est en fait un peu un âne, Nash Sino, et qui est souvent à la croisée des chemins. C'est un motif qui revient aussi beaucoup. Et cet âne, il est bête, mais au sens aussi puissant de l'idiot, quoi. Et que, bien sûr qu'il y a toute l'incompréhension totale du regard occidental, de la prédation... Il y a notamment des citations de Le Clésio sur cette position occidentale. Mais il y a une autre incompréhension, on va dire peut-être plus profonde, plus existentielle, du rapport au réel qui résiste, qui est un bloc qu'on ne peut pas atteindre, le réel ou l'autre, et qui est décrit comme, je trouve, rarement, quoi, cette expérience-là, que oui, c'est peut-être la plus saisissante des expériences de l'existence, c'est de n'y rien comprendre.
Oui, et puis c'est aussi le grand sujet de la littérature, c'est-à-dire comment parler de ce qui est, comment faire état de cet émerveillement et de ce désespoir absolu de ne pas être capable de dire ce qui est. Une chose que je
d'ailleurs,
trouvais fabuleuse,
dites,
oui dans ce livre de Le Clésio, L'extase matérielle, où il ne fait que décrire le réel, décrire... observer très précisément. Déjà, rien que ça occuperait toute une vie. Et c'est quand même, pour moi, c'est toujours paradoxal. C'est toujours paradoxal, ces grandes ambitions. Parce qu'on peut quand même utiliser les armes de la littérature pour faire advenir un peu de description, un peu de compréhension, un petit chemin où on se sent un peu moins perdu dans le monde.
Oui, d'ailleurs, vous remplacez le désir absolu de la compréhension qui avance, c'est-à-dire que pendant 250 pages, on comprend des trucs quand même, par le vouloir être, et vous montrez plusieurs possibilités d'être à défaut de comprendre, et ça, c'est quand même un joli truc en chemin, Nash Sino.
Oui, c'est ça, c'est un combat, en fait, c'est cette question de la réalité, là. C'est aussi l'aventure de cette jeune femme qui a lu trop de livres et qui aimerait être plus dans la vie. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de mes copines. C'est un livre sur l'amitié, mais aussi ses copines, elles se reflètent les unes dans les autres. Hein, je me reflète dans mes copines et mes copines se reflètent en moi. Et le personnage que je suis dans ce livre, que j'exagère évidemment, parce que ça m'est utile, c'est de la non-fiction, donc tout est vrai. Mmh. Et puis, de toute façon, je suis assez exagérée en tant que lectrice, je suis vraiment quelqu'un d'un peu extrême. Mais en tout cas, c'est ce jeu de miroir. Pour moi, ces filles, qui sont donc mes muses, d'une certaine façon, elles sont dans le réel. Elles ont une meilleure connexion que moi dans le réel, dans l'action. Elles font des choses, elles se trompent. Et j'ai envie d'aller vers là. Et en même temps, c'est pas exactement ma place. Donc il y a toujours un va-et-vient vers... comment quelqu'un qui a une culture livresque peut trouver une place où la littérature éclaire la vie, où le but quand même c'est la vie, le plus important c'est la vie. Et le récit, la pensée, les livres, ce sont des armes pour être plus vivant. Voilà, ça semble des banalités dites comme ça, mais on le perd de vue des fois quand on est plongé dans la littérature. Et je crois que ce voyage, ce chemin, c'est aussi un chemin pour trouver une réconciliation de ce bagage livresque avec la vie.
D'autant plus, Nashino, où ça rend ce que vous venez de dire radical, quand ce bagage livresque, il a à voir avec la maîtrise du langage, la possibilité de dire. À la toute fin du livre, vous êtes au milieu d'une assemblée de femmes, où tout l'enjeu, c'est la possibilité de dire. C'est le jour des dénonciations, il y a une sorte d'estrade, enfin une esplanade, et il y a un relais de récit. On va écouter un extrait de votre texte.
Nous nous sommes dirigés vers l'esplanade principale, comme on nous a indiqué de le faire, et on a fait ce qui avait été convenu la veille. C'était le jour des dénonciations. Il y avait un micro, des jeunes filles apatistes le faisaient circuler et organisaient les passages, et pendant qu'une personne parlait, toutes les autres écoutaient. Des filles ont commencé à prendre le micro et à raconter leurs histoires. Nous avons commencé à prendre le micro et à nous raconter notre histoire. L'histoire habituelle, l'histoire du passé, l'histoire de tous les jours. Et c'était une histoire de terreur. Nous avons raconté comment nous avions été violées dans notre enfance, par un oncle, par un cousin, par notre père. Comment notre mère, lorsque nous sommes allés lui raconter en pleurant, à mots couverts ce qui s'était passé, nous a dit de nous taire, que ces choses ne devaient pas être racontées, que la même chose lui était arrivée et qu'elle ne passait pas sa vie à crier ça sur tous les toits avec un air outré et à donner une mauvaise réputation à la famille. Nous avons raconté que notre fille avait été tuée par un petit ami violent. Et lorsque la police est arrivée, les agents de police ont déclaré qu'elle s'était suicidée, ce qu'ils ont répété devant le juge. Même lorsque nous avons démontré qu'on ne pouvait pas se pendre avec un lacet et que les marques sur son cou étaient des traces de doigts. Nous avons raconté l'histoire de l'ami, de la cousine, l'histoire du métro, l'histoire du type qui semblait très militant, très cool dans toutes les manifestations et qui a profité de notre confiance, de notre crédulité, et que c'est surtout ça, cette crédulité qui nous a fait honte. L'histoire du père, du beau-père, du frère, du grand-père, du petit ami, du mari, du prêtre, des policiers, des juges, des militaires, des politiciens. Et encore l'histoire de l'oncle, l'histoire du cousin, l'histoire des voisins. Parce que l'histoire de l'oncle se répète. Il ne vous viole pas une fois et c'est tout. Il vous viole et vous viole encore. Et il viole votre petite sœur, votre cousine, votre grand-mère. Et nous le savons. Nous le savions avant d'arriver ici. Tout le monde le sait. Mais il faut le dire. Il faut le crier. Et le pleurer au micro ouvert, contrôlé par des jeunes filles apatistes sans cagoule, qui ne disent rien, mais écoutent attentivement.
Un extrait de La Realidad, Nashino, votre livre paru aux éditions POL 2019, Forum des femmes en lutte, et cette scène où des femmes parlent, que vous écrivez au nous, Nashino. Vous parliez tout à l'heure des reflets fabuleux qu'offre ce groupe d'amis à la narratrice. Là, il y a quelque chose qui se passe aussi, qui est qu'on se raconte dans les histoires des autres.
Oui, puis il y a aussi toute une construction dans le texte. Un travail sur les pronoms, hein. C'est un texte qui commence à la première personne, avec une grande difficulté, ou en tout cas beaucoup de questionnements de cette première personne, mes questionnements sur qu'est-ce que j'ai en commun avec les femmes indiennes, est-ce que j'ai le droit, tout ça. Et à la fin, et s'est construit ce dialogue. Et je peux dire « nous », en parlant de nous toutes femmes qui viennent de la ville et de la campagne, qui viennent du monde européen et du monde indien ou du monde métis mexicain, qui nous retrouvons toutes ensemble dans cette rencontre de femmes dont vous avez parlé, où on était plusieurs milliers à essayer de dire ce premier jour, en tout cas les dénonciations, essayer de dire, essayer de comprendre, essayer de nous armer pour faire quelque chose contre la violence faite aux femmes.
Et il y a quelque chose de, voilà, qu'on a dit en filigrane, on a parlé de ce chemin, et vous, vous terminez ce jour des dénonciations avec un nous possible, avec l'écoute, l'écoute attentive, à la fois de toutes les personnes présentes, mais aussi de ces femmes qui gèrent les micros. Et il y a des mots qui ne sont pas prononcés. Et vous passez comme ça une nuit à ne pas dormir. Votre narratrice, elle est comme réveillée par le bourdonnement des mots qui ne sont pas prononcés et dont on sait qu'ils vont certainement donner lieu à Triste Tigre, le livre que nous avons lu précédemment, Neige Sino. Vous dites, c'est un livre que je ne voulais pas écrire. Parce que je ne voulais pas que ma réponse soit ça.
Oui, alors, c'est vrai que quand j'ai écrit La Realidad, je ne savais pas que j'allais écrire Triste Tigre. Mais je sais que je sors de ces rencontres de femmes avec une mission, et aussi comme un peu réconcilié avec cette sensation de ne pas être suffisamment dans le réel, avec cette sensation que écrire, ça va pas changer le monde tout de suite, et ça n'est pas direct, mais que ma place est là, que ma place est quand même là, et que cette petite chose que je fais et que je peux faire, qui a un rapport avec des tout petits changements linguistiques, de faire réfléchir, de construire des mots, de construire des histoires, d'ouvrir des possibilités de raconter de certaines façons certaines histoires, c'est ça la place de cette narratrice et ma place à moi. Donc effectivement, au départ, je pensais que le livre à écrire, c'était La Realidad, mais il y en a aussi d'autres. Et donc j'ai mis... Je pense que c'est clair pour les lecteurs qui ont lu Triste Tigre qu'il y a un pont là entre les deux livres.
Oui, absolument, et qui est assez beau, d'autant plus que il se termine ce livre-là, La Realidad, par une dernière traversée. C'est une barque, et vraiment, c'est comme si toutes les métaphores, vous disiez ce mot chemin là qu'on a beaucoup emprunté, qu'on a beaucoup dit, mais aussi que la narratrice a beaucoup emprunté, prenaient sens. Elle traverse quoi. Elle va sur l'autre rive, et l'autre rive, c'est sa petite fille qui l'attend. Il y a vraiment l'idée que quelque chose attend, qui s'appelle le futur, qui s'appelle les enfants, qui s'appelle les petites filles, Neige Sino, et c'est là aussi une fin bouleversante, quoi. C'est pas la fin du chemin, mais elle rejoint un enfant, quoi. C'est assez fou. Je suis émue en disant.
Oui, je me suis permis de jouer avec ces images-là. Bah oui. Non, de Saint Cristobal qui fait traverser Jésus qui porte sur ses épaules, des histoires de bateaux, des histoires de chevaux, un âne qui porte Antonin Artaud. Parce que c'est aussi un jeu de... une communication avec le lecteur et la lectrice.
Mais c'est des vieilles images, ça marche.
Voilà, ce sont des vieilles images, des anecdotes, des paraboles, toutes ces paraboles aussi. Il y a beaucoup de choses avec des animaux qui viennent aussi d'un certain dialogue que j'ai avec le monde du conte, mais aussi les légendes amérindiennes. Ils expriment beaucoup de métaphores et d'anecdotes à travers des animaux qui sont toujours le questionnement de la littérature orale ou écrite, c'est toujours quand même que fait-on de nos existences. Donc oui, je me suis permis de m'amuser, mais c'est toujours très sérieux quand on s'amuse avec quelque chose. Je m'amuse à prendre ma lectrice et à la mettre sur cette barque.
On va écouter pour terminer la voix de Marie-Ève. Elle vous a lu et elle vous adresse très vite une très grande question.
Bonjour le Book Club, bonjour Neige Sino. Alors j'ai adoré La Realidad, j'ai aimé cette quête en fait, cette façon que vous avez de décrire les apatistes et toutes ces choses qu'on apprend sur ces femmes en fait qui sont dans la transmission. J'ai aimé toutes les introspections que vous faites, les réflexions que vous entreprenez, toujours avec une très très juste distance entre ce que vous décrivez, ce que vous vivez, ce que ça vous procure, ce que vous apprenez. Et j'aurais peut-être une question à vous poser. Finalement, je me suis demandé, en refermant le livre, si vous diriez que vous avez fait un livre ou si c'est le livre qui vous a fait. Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Marie-Ève, pour cette très grande question à laquelle Neige Sino a tellement peu de temps pour répondre.
Très grande question, les deux. Mais je pense que le livre m'a fait. Je cherchais quelque chose de plus intuitif, je cherchais à me perdre et c'est effectivement arrivé.
Waouh. Réponse courte, magnifique.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Qui me permet de manière inespérée d'arriver à l'heure aux lectures d'actu. On a rendez-vous avec vous tous les lundis en ce moment. Clémentine Mélois, vous êtes en résidence au Book Club pour sortir des livres de votre bibliothèque en fonction des temps que nous traversons. Bonjour Clémentine.
Bonjour Marie.
Et aujourd'hui, on fête un anniversaire.
Oui, selon le calendrier pataphysicien, nous sommes le 16 pédale 152, nous fêtons les Saints-Templiers et c'est l'anniversaire de Boris Vian qui aurait eu 105 ans aujourd'hui. Pour lui rendre hommage, j'ai eu envie de vous parler du collège de pataphysique, dont Vian était un membre actif de 1952 à sa mort en 59. Le terme pataphysique apparaît pour la première fois dans le livre « Gestes et opinions du docteur Faustrol, pataphysicien », écrit par Alfred Jarry en 1897. La pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires, dont l'un des principes fondamentaux est l'équivalence des contraires. Boris Vian refusait ainsi de distinguer ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas, puisque pour les pataphysiciens, et pour moi aussi d'ailleurs, c'est exactement la même chose.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point pour celles et ceux qui ne sont pas complètement familiers de l'œuvre de Boris Vian ?
Alors Boris Vian était ingénieur de formation. Parmi ses nombreuses activités, il traduisait depuis l'anglais, chantait et jouait de la trompinette dans les caves de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Mais il était surtout l'auteur de chansons et de romans, dont le désormais classique « L'écume des jours » paru en 1947, et que Raymond Queneau avait qualifié de « plus beau des romans d'amour contemporains ». Dans un autre genre, son deuxième roman le plus célèbre est sans doute le sulfureux « J'irai cracher sur vos tombes », écrit sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, et paru à la rentrée 1946 aux éditions du Scorpion. Je ne sais pas si vous voyez les très belles couvertures des éditions du Scorpion, rouge et noir.
Est-ce que vous en avez fait un petit remix ?
J'en ai fait un petit remix,
oui,
effectivement.
Voilà, parce que Clémentine Mélois a un très beau travail de plasticienne. On ferme la parenthèse et on a rendu nos auditrices et auditeurs curieux.
Voilà. Alors, selon la légende, Vian avait besoin d'argent, notamment pour s'acheter une voiture, et il a écrit ce roman en 15 jours pendant ses vacances à Saint-Jean-de-Monts. Alors, pour le titre, il avait d'abord pensé à « J'irai danser sur vos tombes », et c'est sa première épouse Michel qui aurait suggéré ce « cracher sur vos tombes », vengeur, qui est depuis entré dans l'histoire littéraire. Et je viens d'ailleurs de lire, il n'y a pas très longtemps, que le formidable comédien et réalisateur Jean-Pascal Zadi s'apprête à l'adapter au cinéma. J'ai très hâte de découvrir ça.
Et nous, on a hâte de découvrir la bibliothèque Jean-Pascal Zadi. S'il nous entend, on relance l'invitation. Boris Vian,
je vous adore.
Écrivait aussi de la poésie, Clémentine Mélois.
Oui, et c'est par là que j'ai découvert à 15 ans, à travers le recueil de poèmes « Cantilène en gelée », paru pour la première fois en 1950. Cette lecture de jeunesse tient pour moi de la mythologie fondatrice. Parce qu'à l'époque, j'avais pris depuis quelques années déjà la décision absurde de ne plus jamais lire de romans. J'étais convaincue qu'aucun ouvrage de fiction ne pourrait rivaliser avec Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, dont la lecture à 12 ans m'avait exagérément exaltée. Cette première rencontre avec la poésie, à l'âge des lectures adolescentes, m'a ensuite amenée à découvrir d'autres poètes et d'autres poèmes qui continuent de m'accompagner aujourd'hui. Et quand je pense à la poésie, me vient toujours en tête ce vers des « Poèmes bleus » de Georges Perros. Il y a un proverbe breton qui dit que la poésie est plus forte que les trois choses les plus fortes, le mal, le feu et la tempête.
Et c'est un proverbe qui est breton d'abord et qui nous rappelle combien on a besoin aujourd'hui de poésie pour affronter certaines tempêtes, Clémentine Mélois.
Oui, pour les tempêtes réelles, collectives ou intimes, il me semble que la poésie peut servir de radeau de sauvetage, un radeau fragile comme tous les radeaux, mais qui me permet tout de même parfois d'apaiser l'inquiétude en attendant que le vent se calme. Ça marche avec Aragon, Verlaine, Guillevic, Francis Ponge ou François Villon. Mais des poètes bien vivants savent aussi faire quelque chose du chaos de la vie ordinaire. Alors, j'aurais bien voulu vous lire un poème de Bernard Chambaz, de Sophie Martin, de Victor Pouchet ou de Guillaume Decourt. Mais le temps est compté. Et je vous propose de finir en lisant un poème en prose de la Québécoise Camille Redman Prudhomme, tiré de son livre « Quand je ne dis rien, je pense encore ». Très beau titre, paru en 2022 aux éditions Lois de Cravant.
Très belles éditions.
Aussi. Alors elle écrit ceci qui dit bien la forme d'attention au monde et à soi que permet le regard poétique. Il y a des choses dont l'existence est difficile à attester parce qu'elles apparaissent discrètement. Il y a les migraines qui se manifestent par une douleur qui n'a pas d'image. Il y a les souvenirs qui arrivent à l'intérieur de nous-mêmes, par saccades et par grappes. il y a les remords et les hésitations. Il y a ce que disait ta mère et qu'elle ne disait qu'à toi. Il y a les chansons qui résonnent dans ton silence. Chaque fois que tu te laisses flotter dans tes pensées, vient un moment où ta bulle éclate, tes paysages intérieurs semblent s'évaporer, tu te retrouves face à ce qui t'entoure et tu t'étonnes de la fragilité de ce qui t'accompagne en te faussant toujours un peu compagnie.
Décidément. On se perd, on se fausse compagnie, on se retrouve. Un immense merci Clémentine Mélois. On peut retrouver ses lectures d'actu, Boris Vian, Georges Perros, Camille Redman, Prudhomme et les autres sur franceculture.fr la semaine prochaine.
Ce sera la dernière. Et là oui, la dernière.
Neige Sino, vous étiez là pour nous parler, et vous êtes encore là, de La Realidad parue aux éditions POL. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on cherche de la musique dans les livres, et on en a trouvé. C'est une scène d'autocar, de bus, voilà, c'est une scène de retour comme ça, de retour je crois, hein, je m'y perds. Oui. Le bus tangue, on est d'accord, et tout le monde est crevé, et il n'y a plus beaucoup de batterie dans l'enceinte, mais suffisamment pour danser un peu sur de la cumbia. Nous sommes harassés et étourdis de tout ce que nous avons entendu et pensé ces jours derniers. Et pourtant, au milieu de cette conscience vive du désastre, il nous faut rire quand même un peu. Nous nous moquons de nos cheveux sales et de nos jeans pleins de boue, des messages que nous envoyons toutes en même temps dès que nous atteignons une zone qui a du réseau. Quelqu'un lance une cumbia sur de petites enceintes qui n'ont presque plus de batterie. Nous dansons sur nos sièges et même un peu dans le couloir. Le chauffeur est si content que nous soyons enfin sur le chemin du retour qu'il ne râle qu'à moitié quand le bus tangue sous nos pieds. Puis la fatigue a raison de nous peu à peu. La fatigue et les longues heures de trajet sur les autoroutes verdoyantes et cabossées du Chiapas et de Campeche, à travers les noires forêts de Veracruz, au fil des champs infinis d'herbes jaunes, sous le ciel gris de l'État de Mexico.
En la plaza está el fandango, el negrito, una negrita que solita está bailando.
La cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando. Las espermas van llorando, el brazo me va pringando. Todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango. Qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando.
Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el mandango. Hay un negrito, una negrita que solita está bailando.
Merci beaucoup Neige Sino d'avoir été avec nous dans le Book Club pour évoquer La Realidad parue aux éditions POL. Vous souriez parce que vous avez envie de danser ?
Non, je suis contente qu'il y ait de la cumbia à France Culture.
Au son aujourd'hui, c'était Noé Chaban à la réalisation, Vivien Demeyer, un grand merci à cette communauté de femmes qui m'aident à penser et préparer ces émissions. Jeanne Aléos, Louise Hoth, Mathilde Wagman, Léa Weissgruss et Marianne Chassor. Vous pouvez réécouter ce book club et les autres sur franceculture.fr.